Ground Control.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, l'Europe en fait. Mais en fait, c'est quoi l'Europe ? Eh bien l'Europe ce soir, c'est 5 Européens qui se réunissent autour d'une table pour parler de leur pays et discuter de ce qui se passe chez eux. Et aujourd'hui, les pays européens autour de la table sont l'Italie, avec Carla. Bonsoir Clara.
Bonsoir. Buonasera.
Alors c'est pas Clara, c'est Carla.
Ouais, c'est Carla.
Je sais que t'es un peu sensible sur ce sujet. Ensuite, on a le Pays-Bas avec Willem.
Bonsoir.
Comment on dit bonsoir en hollandais ?
Goedenavond.
Goedenavond. Ok, on va aller piano piano. Ensuite, on a l'Irlande avec Sinead.
Voilà, bonsoir.
Bonsoir Sinead. Et en gaélique, ça donne quoi alors ?
Bah, on dirait plutôt Diagwitch.
Bien
ça
good.
Veut dire bonjour, mais bon, on le dit le soir aussi.
D'accord, ok. Donc, très bien. Et ensuite, on a aussi la Grèce avec René.
Kalispera.
Kalispera. C'est joli, ça. Je ne dis pas que les autres ne sont pas jolis, attention. Hein. Alors, donc moi, je suis toujours étonné de voir, puisque vous parlez tous couramment français, et je veux savoir comment ça se fait que vous parlez aussi bien français. Ça fait combien de temps que vous êtes ici en France pour parler aussi bien couramment le français, Carla?
Alors, moi, ça fait fixe, ça fait 5 ans. 5 ans.
5 ans que tu es à Paris, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et toi, Willem ?
Ça fait un an et demi que je suis à Paris, mais j'ai un peu triché parce que j'ai une copine française. Donc,
d'accord, donc
ça compte pas.
Donc c'est l'amour qui t'a appris le français, c'est beau. Et toi, René, ça fait combien de temps que tu es à Paris ? Ou en France, peut-être que tu étais.
Moi, je suis à Paris depuis 2010 et je suis un peu une double européenne parce que j'ai grandi à Athènes, mais ma mère était française et j'étais dans un lycée français, donc
d'accord.
C'est un peu de la triche.
D'accord. Donc on a beaucoup de tricheurs dans cette équipe, visiblement. Et toi, Sinead, alors ?
Bah, moi, ça fait Paris un an. Avant, c'était Lille, mais quand même, ça fait 8 ans depuis que mon première installation en France. Donc,
voilà. T'es resté combien de temps à Lille pour apprendre
le
français ?
Bah, 9, 11 mois, je crois, en total.
D'accord, donc ouais. T'es resté un peu moins d'une année, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
D'accord, très bien. Donc, au cours de notre émission, chacun de vous a prévu de raconter une anecdote ou une actualité de son pays. Et est-ce que les uns les autres, vous pouvez nous donner une idée du sujet que vous allez aborder ce soir ? René, tu sais de quoi tu vas nous parler ?
Alors, je sais, mais je ne sais pas si je garde la surprise ou pas.
Si tu préfères garder la surprise.
Je passe à la fin, ça va vous détendre.
D'accord, ok, très bien. C'est une énigme, quelque chose qui va nous détendre. William, est-ce que tu sais de quoi tu veux nous parler ?
Oui, bien sûr. sinon, ça aurait été un peu bizarre. Mais oui, c'est la langue hollandaise, en fait, pour débuter ce soir.
Très bien. Et toi, Sinead, tu sais de quoi tu veux nous parler ?
Moi, j'ai une expression que je vais vous expliquer, qui parle pas mal de la psychologie des Irlandais.
D'accord. D'accord, très bien. Et toi, Carla ?
Eh bien, moi, c'est la politique, évidemment. On peut
très
pas
bien.
S'empêcher.
Eh bien, tout ça a l'air très intéressant. Je vous propose qu'on commence tout de suite en partant en Hollande avec toi, Willem.
Ground Control. Libre et curieux.
Donc William, tu nous disais que tu voulais nous parler des langues, et notamment des langues qu'apprennent les Français à l'école, je crois.
Oui, plus ou moins. Parce qu'en France, on apprend quasiment toutes les langues parlées par nos voisins. C'est-à-dire que l'anglais est obligatoire à l'école, et aussi l'allemand et l'espagnol jouent un rôle considérable dans l'enseignement. Et même l'italien, c'est quand même la quatrième langue qu'on apprend dans l'enseignement secondaire. Et en plus, au-delà de son faible rôle de l'italien, chaque Français pense pouvoir prononcer l'expresso de façon correcte.
Ouais, c'est ça, ou la pizza.
Pour désigner, voilà, c'est
pizza.
Ça. Quoi.
Et donc, en fait, ce que tu vois, c'est que les Français oublient souvent la langue du Nord. C'est là où tu vas en venir.
C'est ça. Parce qu'en effet, le néerlandais est une langue voisine de la France. Dans un premier temps, bien sûr, c'est à côté de Lille et Dunkerque que nous, aux Pays-Bas, on prononce comme Rijssel et Dunkerque. Mm-hmm. Et en plus, contrairement à ce qu'une bonne partie des Français pensent, le flamand et l'hollandais, c'est exactement la même langue. C'est une seule et même langue.
Donc les Belges et les Hollandais parlent la même langue, c'est ça ce que tu es en train de dire ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Enfin, les Flamands, quoi.
Oui,
d'accord. C'est, voilà, peut-être pour vous, c'est un peu différent parce qu'il y a le « rrr » et le « rrr », voilà, typique du Nord.
On fait
voilà,
pas forcément attention, ouais, c'est ça.
Mais bon, les Belges, c'est peut-être un peu plus doux, mais voilà.
Alors moi, je suis pas capable de dire laquelle est plus douce que l'autre. Franchement, entre le « crr » et le « crr », j'ai pas fait la différence. Par contre, si j'ai bien compris, on pourrait dire que le Hollandais et le Français ont finalement une frontière linguistique commune en Belgique. Entre la Wallonie et la Flandre, c'est ce que tu disais.
Oui, c'est ça, et même à côté de la France. Mais la frontière n'est pas seulement en Belgique, parce que le Royaume-Uni des Pays-Bas, s'étend jusqu'à l'autre côté de l'océan également. Vous vous souvenez peut-être de l'ouragan de l'année dernière à Saint-Martin. Ce même ouragan a frappé Sint-Maarten, aux Pays-Bas. Donc voilà, et en fait c'est exactement le même île, peut-être divisé par une trentaine de kilomètres, mais c'est un seul et même île qui a divisé en une partie française et
d'accord,
une partie hollandaise.
La France et la Hollande partagent une île en fait.
C'est ça.
D'accord, très bien.
Une toute petite île en Caraïbes.
Ok, bah, écoute.
Mais en plus, il y a plus que ça, parce qu'à côté de la Guyane française, il y a le Suriname. Et le Suriname est une ancienne colonie des Pays-Bas. Et aujourd'hui, on parle encore l'hollandais, le néerlandais, pour être plus précis.
Ah, donc finalement, le hollandais et le français ont plus de frontières communes en Amérique qu'en Europe, c'est ce que tu es en train de nous dire.
Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est grave, mais bon. voilà. Et inconsciemment, le néerlandais va même plus loin. On essaye d'envahir la langue de Molière. Contrairement au proverbe hollandais, mieux vaut un bon voisin qu'un ami lointain, le néerlandais est méchant. Il y a plusieurs mots en français qui ont des origines hollandaises, c'est-à-dire boulevard, c'est un mot d'origine hollandais, mannequin. Même le très tropical pamplemousse a des origines hollandaises.
Pamplemousse, je ne l'aurais pas cru. Mais je ne savais pas que certains mots français venaient du hollandais. Et est-ce que le hollandais a une influence sur d'autres langues que le français ?
Tout à fait, ouais. On a aussi dans d'autres anciennes colonies, en Afrique du Sud, l'Afrikaners qu'on connaît. Voilà. Et aussi en Namibie, qui s'est un peu parlé. Et on connaît tous le mot apartheid, je pense. Voilà, pour dessiner la ségrégation.
C'est pas forcément un mot joyeux, mais on le connaît, oui.
Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a des trucs plus joyeux, peut-être avec le groupe hip-hop rave sud-africain qui s'appelle Die Antwoord, que vous connaissez peut-être et qu'on va écouter peut-être plus tard aussi. Et c'est avec ce groupe-là que aussi la France commence à être envahie par les langues nordiques, disons. Au final, c'est une question de temps avant que le français soit envahi par et tout cela de nord, quoi.
Bah écoute, merci beaucoup pour nous avoir appris que finalement on va tous parler en assez rapidement.
C'est ça.
Moi, par rapport à ça, je voulais savoir si vous aussi, vous êtes dans vos langues natales, il y a des mots en français qui se cachent pas forcément.
Oui, en italien on dit c'est la vie, bijoux.
Tu dis c'est la vie, c'est la vie.
On dit c'est la vie, oui. On dit voilà. Ouais, non, il y a plein d'expressions.
Ah hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait avant. C'est ce qu'on disait dans vos langues aussi, on utilise l'expression voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Voilà. C'est vrai ?
C'est quelque chose de classe de dire voilà.
Voilà, c'est vrai. Bon, ouais, je trouve ça pas forcément.
Collant. Ouais. Mais moi j'ai un problème, tu vois. Maintenant, quand je rentre en Italie, en fait, je prononce le mot avec la prononciation française, et donc en italien, tu vois, il me comprend pas. Tu vois, c'est très très perturbant. Tu vois, j'arrive, déjà, ah donc, quindi hai comprato dei collants, tu vois, et t'as acheté des collants et dit qu'ils sont.
Alors,
sont
c'est quoi la prononciation en italien alors?
Hai comprato dei collants. Des collants.
Des collants.
Ouais. Oui, on voulait dire, bon, c'est la vie. J'étais plus capable. En fait, je sais plus parler en italien, c'est horrible. Mais
donc il n'y a pas d'autres mots dans vos langues. Donc le français n'a pas du tout d'influence sur vos langues. Oui.
Ah, en grec, bon, il y a un peu comme l'italien, sauf que nous on dit collan.
Ah.
Donc voilà, c'est pas pareil, c'est un peu plus.
Donc à part le mot collant, est-ce qu'il y a des mots
mon
qui
préféré,
reviennent?
C'est coblet. Coblet. Qui vient donc, je pense, de complet pour dire tout roule. Ça.
Coblet.
C'est si mal. Coblet.
Coblet, d'accord.
J'adore.
Ok. Donc ça c'est français, ça. Ok, très bien.
Je pense.
D'accord. Donc c'est possible que ça vienne du français.
On dit tailleur aussi.
Tailleur.
Tailleur. Le tailleur. Le tailleur.
Oui, le tailleur. Voilà. Oui. Je ne vais pas souvent chez tailleur, mais je vois de quoi il s'agit. L'autre question que je voulais savoir, c'est à l'inverse, est-ce qu'il y a des mots français qui... Ah non, ça, je l'ai déjà dit. Est-ce que... Ça va, je peux me tromper de ligne. Est-ce que dans vos langues natales... mais non, je dis n'importe quoi. Écoute, on va passer tout de suite avec la musique dont tu as parlé tout à l'heure, du groupe... Alors, tu peux le reprononcer parce que je vais encore dire n'importe quoi. Moi, je leur ai dit « Die Antwoord ».
Oui, c'est comme ça qu'on prononce
voilà,
en français.
Je parle hollandais, je le savais.
Voilà. Donc, ça veut dire la réponse d'ailleurs.
Ça veut dire la réponse. Ouais. Die Antwoord. Eh bien, écoutez, on va écouter la réponse et leur tube Hunter the Ninja.
Yeah. ninja. Yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm with a dog.
Yo, ninja, go.
No fucking it out, I'm cutting down anyone I'm apart. Trying to fuck up my game with razor sharp. Political throw starts, yeah, then my flow's on. Hostile, wild, out of control. Ninja, scope, fuck the roof. Rough rhymes and tough times, red for all course. Scrawl, till I hit 777 at the ATM. Straight famine of feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp, rolling with the S.O.S. High energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard, death flows flex. Yo, we are the must up, not fucking the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you can't do this, you can't do that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Fuck with my game, boy, or I'll boost you. Life is tough when I get stuck on my time. It's up, I boost through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard core. Been cut so deep, feel no pain, is not sore. Don't ask for cock, or you get what you asked for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy, don't play with me. I work my mark, saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot tech ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams, and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. This is like the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, die fucking Antwoord. It's my name. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. A motherfucking ninja.
Die Antwoord. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous poser comme question sur les mots. Est-ce qu'il y a des mots dans vos langues natales qui se cachent dans le français? De vos langues natales qui se cachent dans le français? Ah, comme expresso, par exemple, pizza, je sais. Alors, en italien, on a beaucoup.
Bah oui, il y a toute la bouffe. Hein. Non, mais il y a des expressions style la pire que je déteste, parce que c'est grosso modo. Ah oui. Il n'y a rien de pire qu'entendre en français qui dit oui, mais que grosso modo.
Grosso modo, oui.
C'est horrible, arrêtez de faire ça.
Donc, s'il n'y a pas d'autre oui, ouais. Sinead ?
Bah, en fait, je dirais il y a presque rien de gaélique en français, mais il y a pas mal des mots anglais maintenant en France.
Ça, c'est clair.
Mais avec le petit accent français, ça peut être bien drôle pour moi. quand j'entends des gens qui commandent une muffin plutôt qu'une muffin.
Bah, muffin.
Ouais, voilà. D'accord. C'est toujours une question des accents. Ouais.
Donc, à chaque fois qu'on parle de ça, on se moque de l'accent français. On va partir maintenant en Irlande avec toi, Sinead. Sinead, ce soir, tu as décidé de nous parler d'une expression utilisée dans ton pays.
Oui, voilà. Je voulais vous entretenir produit, une expression assez classique dans mon pays. Donc voilà, c'est en gaélique et le gaélique, c'est quand même une de nos deux langues officielles. Donc voilà, écoutez bien. Nilain tinton, ma de hinton fein. Ok, donc je répète une fois. Nilain tinton, ma de hinton fein.
Alors ça fait Nilain tinton, ma de tinton fein. C'est presque ça.
Pas exact, non.
Bon, écoute, tu ne sais pas le dire aussi bien toi, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, bah, si on commence vers le début, voilà, nil, c'est négatif, donc ça veut dire plus ou moins non. Et tinton, ça veut dire le foyer. Et fein, c'est l'idée de la propriété. Donc, si on prend l'ensemble, nilain tinton, ma de hinton fein, c'est l'idée qu'il n'y a aucun foyer comme sa propre foyer, son propre foyer même. Donc, tinton... Ça veut dire plus précisément là où on met le feu dans la maison. Donc, c'est le feu, la cheminée, le corps de la maison autour duquel on se rassemble. Voilà, donc, tout ça.
Donc, tu es en train de nous expliquer que la symbolique du feu a une vraie importance dans la culture irlandaise en règle générale ou pas?
Ah oui, bah, bon, le feu, c'est important pour les Irlandais, mais c'est le foyer plutôt que je vise là. Mm-hmm. On a une relation avec notre chez-soi, notre terre, qui pour moi reste très liée à notre histoire d'un pays qui a été colonisé par les Anglais. Une histoire de 700 ans même. Et le fait que notre terre a été prise par les Anglais, distribuée parmi eux pour qu'ils en puissent y s'installer et cultiver la terre, aussi que rendre les Irlandais britanniques. Voilà,
mais tu parles de cultiver la terre, donc il s'agit surtout de valeurs des personnes qui vivent dans les campagnes irlandaises.
Oui, bah, pour ceux à la campagne, c'est surtout la ferme qui comptait pour beaucoup. L'idée assez classique, c'est une ferme qui a été transmise par les générations avec de la bande terre autour. Voilà.
Et pour ceux qui habitent dans les grandes villes, ça ne marche pas?
Bah, alors, la plus grande ville, Dublin, a une population de 550,000 personnes.
D'accord, 550 000 personnes.
Voilà, approximatif. Et 1,173,000...
1,173,000 personnes.
Merci, dans l'espèce urbaine. Donc, on a des différences par rapport à la plupart de l'Europe, où dans les grandes villes, on a beaucoup qui vivent en appartement. Mais en Irlande, la tendance était plutôt à l'américaine, donc de construire des banlieues autour des villes. On continuait avec les maisons groupées, avec pour chacun son petit jardin, donc son petit air. Mais même dans les grandes villes, on aime bien la verdure, voilà, on aime bien ce petit air-là. Et jusqu'à ce siècle, la classe moyenne, bobo même, qu'on trouve au centre-ville à Paris, par exemple, habiter en Irlande en banlieue.
C'est vrai que moi, je me rappelle de mes voyages quand j'allais à Dublin adolescent. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années. On n'habitait pas à Dublin, mais on habitait en banlieue proche. Et ça ressemblait beaucoup à ce que tu es en train de décrire.
Sauf que ça a changé beaucoup ces dernières années. Dublin et les autres grandes villes comme Cork, Galway, Limerick se mettent plus en plus dans la vie de l'appart et de location. Entre 2000 et 2016, la population des locataires a plus que doublé. Et la construction des immeubles d'appart dans les centres-villes devient une nécessité pour surtout une population qu'on a des jeunes qui arrivent pour leurs études et leur travail et qui veulent être proches de l'action plus qu'ils veulent être loin de tout avec son petit jardin pour soi.
Donc la nouvelle génération des Irlandais n'est pas trop tinted fein.
Bon, oui, bah, c'est bien prononcé là.
C'est,
oui,
vrai?
C'est bien tinted fein, bah, c'est presque. Ouais, bah, ça reste toujours assez important d'avoir un chez-soi pour soi, même si cette tinted ne peut plus avoir de feu dans les grandes villes. Voilà, on devient écolo et on restreint la fumée, mais on garde toujours cette phrase pour évoquer l'accueil et la chaleur d'un foyer à l'abri des bousculements du monde. Voilà.
La chaleur irlandaise de l'accueil. Merci, Sinead. Et après ce que tu viens de nous dire, j'ai hâte que tu nous invites dans ton tintéan à toi.
Bientôt.
Maintenant que je sais le dire. Est-ce que, alors, je me tourne vers les autres et je vous demande, est-ce que dans vos pays aussi, il y a un attachement à la valeur de son chez-soi? L'attachement à la terre ou quelque chose comme ça, de vos maisons, pas forcément, pas aussi présent? Je sais que non, pas forcément. Ça vous fait pas réagir?
Non, moi j'ai l'esprit, c'est un peu comme home sweet home, casa dolce casa, on dit en italien. C'est ça, c'est clair qu'on est, attaché hein, à son propre foyer, al focolare. C'est très important. C'est la base, hein. Je pense que ça vient de la préhistoire, tout ça.
Mais vous n'avez pas forcément un attachement? Oui, Chine, tu voulais dire
non,
quelque chose?
Non, en fait c'est curieux que ce que vous avez, donc, du coup il n'y a pas un côté feu. Parce qu'il fait déjà assez chaud en Italie, c'est ça?
Non, ça non, pas on n'a pas trop. Mais oui, ça dépend, tu vois, parce que ça peut faire très froid dans le nord et ça peut faire très chaud dans le sud. Donc oui, dans le nord, tu peux avoir de feu, mais dans le sud, voilà, okay. Ça suffit.
Il n'y a pas de cheminée en Italie, si?
Ben si, ça va. Ouais, si. Non, mais pas autant qu'à Paris. C'est vrai que nous, ce qu'on adorait de Paris, c'est de trouver un appart avec un cheminée. Hein. C'est génial. À Rome, tu ne trouves pas de cheminée, c'est clair.
Mais vous n'avez pas forcément comme ça l'attachement des habitants, enfin, peut-être que c'est plus présent en campagne plutôt qu'en ville, l'attachement à leur village. C'est pas forcément une notion, ouais. René, tu veux dire quelque chose ?
En Grèce, la dichotomie en fait entre ville et village, elle est pas aussi forte parce qu'en fait, bon, la majorité de la population maintenant habite en ville, mais tout le monde a entre guillemets son village. Donc d'où viennent parfois ses arrière-grands-parents qui sont par exemple à Athènes ou à Thessalonique depuis des générations, mais par exemple pour Pâques, pour Noël, ils retournent et ils disent au village. Donc, d'accord. Je sais pas si c'est ça le foyer, c'est un peu parallèle, c'est des visions un peu parallèles. Il y en a pas un qui s'oppose à l'autre. Mais c'est une partie de l'identité qui est assez importante. Alors bon, pareil, sans foyer au sens strict, vu qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de cheminée. Parce que voilà, pareil, on aurait peut-être un petit peu chaud. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas une opposition. Mais bon, il y a cette question de l'exode rural qui est un peu restée. Quoi.
D'accord, ok, très bien. Donc finalement, c'est présent qu'en Grèce et
non.
En Irlande.
Bah non, mais c'est présent. Hein. C'est présent, c'est super présent.
Non, parce que je sais qu'en France, par exemple, pour prendre mon exemple, aujourd'hui, je me vois moins aller en campagne pour retrouver une partie de ma famille ou quoi. Ce sera pas forcément le cas. Quoi. Donc, c'était comme tu parlais, ces valeurs-là, de retrouver son foyer, sa terre d'origine. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une terre d'origine. Pourtant, je viens bien de quelque part, mais c'est pas l'impression que c'est ma terre d'origine.
Mais en France, les gens bougent beaucoup, en fait. Il y a une forte mobilité au sein de la France, plus que dans d'autres pays. Et du coup, comme les gens sont un peu plus ballotés, je sais pas si...
Non, mais là, j'avais pas compris la question, franchement. C'est pas forcément... Je pense qu'il a, avec le truc, il a dit, je rentre à mon village, j'ai compris. Et c'est vrai que nous, on a exactement le même en italien. C'est très, très important. Même, tu vois, nous, ce qu'on dit, les Italiens, avant d'être Italiens, c'est ils viennent de leur village, de leur petit truc. C'est ça. Très, 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 très important. Parce que c'est un pays très, très jeune, en fait. Donc, c'est plus important. La première identité, tu l'as à travers ton village. Et après, c'est l'identité nationale. C'est pour ça qu'en France, je pense que vous êtes une nation assez ancienne, hein, on peut dire. Peut-être, toi, c'est plus effacé.
On n'a pas forcément un attachement. Alors, aujourd'hui, on parle d'attachement à des départements, 9-2, 9-5, 7-8. Ouais. Mais ce n'est pas un attachement historique. Tu voulais dire quelque chose, William ?
Je trouve que c'est très intéressant ce que tu venais de dire, René, par rapport à la mobilité, parce que je pense que ça a à voir aussi avec la taille du pays. Aux Pays-Bas, on est tellement petit, on peut voyager le pays en 2-3 heures.
En vélo,
en plus, ouais. Mais je pense que ça aussi, quand un pays est plus grand, quand c'est plus difficile de rentrer chez soi, on a un plus fort attachement à son chez-soi. Et nous, voilà, quand on a envie de rentrer chez les parents, ça veut dire, voilà, tu prends le train et une heure plus tard, t'es chez toi. Donc, t'as pas ce sentiment, quoi.
Bien sûr. Très bien. Je voulais revenir aussi parce qu'elle nous a parlé d'une expression de son pays. Est-ce que vous avez des expressions comme ça qui vous passent par la tête et qui représentent un petit peu, qui représentent une partie de la culture de votre pays ? Est-ce que vous en avez une qui vous passe par la tête maintenant ? 1, 2, 3, non ?
Tous en même temps ?
Non. René, t'en as une qui te vient ?
Je vais vous en donner une sans commentaire.
Allez.
C'est partavro que curefto. Prends l'œuf et coiffe-le. Je vous laisse méditer sur ça.
D'accord, ok. Prends l'œuf et coiffe-le. D'accord, il faut avoir un bon coiffeur.
Tentez-le.
Je crois que je l'ai déjà évoqué avant, mais c'est original. C'est que ce que le fermier ne connaît pas, il ne mange pas.
D'accord, alors rappelle-moi ce que ça veut dire, ça.
Ça veut dire qu'on aime ce qui vient de loin, on aime moins.
D'accord, là on revient sur la même notion de du foyer, tout ça. Okay.
C'est
okay,
ça.
D'accord, très bien.
Si ça vient d'une heure de vélo chez moi, je ne mange pas.
Ok, très bien. Mais on va partir maintenant dans le sud de l'Europe avec Carla et son Italie.
Grand contrôle.
Libre.
Libre et curieuse.
Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe au niveau politique en Italie en ce moment, ok hein. Alors, on a décidé un jour de faire des élections suivant un modèle de loi électorale qui rappelle le modèle allemand. Hein. C'est le modèle proportionnel. Hein. Et tout ce qu'on a compris de ce modèle proportionnel, c'est que c'est un grand bazar. Voilà. Les Allemands, ça leur a pris du mois d'octobre 2017 au mois de mars 2018 pour faire le gouvernement. Comment on a pu penser qu'on aurait pu faire mieux que les Allemands, nous, les Italiens, hein ? Franchement. Accrochez-vous parce que c'est mieux que n'importe quelle série.
Ah, ça tombe bien, nous, on aime bien les séries, ça. Vas-y.
Voilà. Après une série infinie de rebondissements, je vous épargne. Hein, Di Maio et Salvini, qui sont, pour résumer un peu grossièrement, le Mélenchon et la Le Pen à l'italienne, ont décidé de faire une alliance après les élections. Sans prévenir les électeurs avant. Hein, je répète, hein, Di Maio, c'est Mélenchon et Salvini, c'est Marine Le Pen. Voilà, vous les avez ?
Okay, on y va.
Le porte-parole de l'extrême droite, le parti de Salvini, a déclaré Là, le plus important pour nous, c'est de ne pas dégoûter les Italiens de la politique. Eh bien, merci beaucoup, j'ai l'impression que c'est raté. Alors, comme le veut la loi italienne, ce sont eux, Matteo Salvini et Di Maio, qui ont proposé à notre président de la République un Premier ministre et un gouvernement. Mais le président de la République n'a pas validé le projet. Et pour cause, le choix d'un ministre clairement anti-européen. À la suite de ça, Di Maio voulait faire destituer le président de la République. Alors que c'est clairement marqué dans la Constitution que le président de la République a le droit de ne pas accepter la proposition de l'alliance des partis. Alors Di Maio revient sur ses pas. Et il dit, en fait, non, on s'est trompé. Non, excuse-moi, oui, vous avez raison, monsieur le président. On peut réessayer. Et nous y voilà avec Conte, Premier ministre, et Di Maio et Salvini juste derrière. Hein, une espèce de triumvirat où, pour l'instant, c'est clair que celui qui crie les plus forts est Matteo Salvini. Surtout pour ses positions sur les migrants.
Alors oui, les migrants, c'est le sujet sensible en géopolitique européenne actuelle. On a la même chose en France. Mais attends, je n'ai pas compris. Conte, c'est le Premier ministre. Di Maio et Salvini, ils font quoi dans cette histoire ?
Alors, ils se sont partagés les ministères, hein, comme dans la cour de l'école, hein, vous vous souvenez. Salvini est ministre de l'Intérieur et Di Maio est ministre du Travail, hein, même pas l'économie. J'ai comme l'impression que M. Di Maio s'est fait un petit peu arnaquer. Hein. Mais ce n'est pas si grave. C'est le ressenti de la majorité des Italiens en ces moments. Et des Italiennes aussi. Alors que cette année, partout dans le monde, la position de la femme s'affirme, se libère. Eh bien, nous, en Italie, on a un gouvernement avec seulement 5 femmes. 5 femmes, hein. Bravo, les gars. Franchement, on n'est pas fiers, là. Franchement, alors rien à voir. Mais tout ça, ça m'a fait penser à une chanson que tout le monde chantonne en ces moments. Et la chanson, c'est Bella Ciao.
Bah hein, oui, c'est la chanson qu'on a redécouvert avec la série La Casa del Papel.
Ah, bah, génial, tu vois. Tu sais, même Maître Gims va en faire un remix. Hein, ça va être trop charmé, ça. Tout le monde la chantonne. Hein, on peut même la danser en boîte de nuit. Mais personne ne sait plus de quoi ça parle. Hein. Alors là, je vous explique. À la base, Bella Ciao est la chanson des partisans italiens qui ont lutté pour la liberté de notre pays. Mais encore avant, c'était le chant de proteste de Mondine. C'est qui les Mondine ? C'est les femmes qui travaillaient dans les rizières, à la base de tout. Il y a des femmes, toujours. Hein. Et ben, elles passaient des journées entières penchées sur le riz, avec leur patron, les yeux penchés sur leur derrière. Hein, charmant. Donc, d'abord, on va dire que Bella Ciao, c'est la chanson de la femme. Ensuite, c'est la chanson du pauvre. Ensuite, c'est la chanson du courage. Et enfin, c'est la chanson de l'amour, de la liberté. Hein. Et le seul truc qui me perturbe dans tout ça, c'est que si on peut vendre un symbole comme ça à une série télé ou même à Maître Gims sans se poser aucun problème, j'ai l'impression que tout devient très, très, très compliqué. Tout nous va, on ne dit plus rien, parce que de toute façon, rien ne va plus.
Rien ne va plus. Faites vos jeux. Sauf que la politique ne devrait pas être un jeu. Bref, bon, est-ce que vous aussi, chez vous, c'est un bazar politique comme ça ou c'est pas l'Italie dans tous les pays ? Nous, c'est pas trop le bazar puisqu'on a un monsieur qui est arrivé qui a dit « Vous inquiétez pas, je vais redresser la France. Et l'Europe en même temps. Et le monde en même temps. »
Je vous ai compris.
Parce qu'il y a aussi le problème des extrêmes dont tu parlais, et que ce soit la gauche ou la droite, est-ce que ces partis ont de plus en plus de poids dans vos pays aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient, ou c'est quelque chose dont vous parlez ou pas ? Oui ?
En fait, je crois que nous, on a une situation un peu bizarre, même en Europe, on n'a pas vraiment des extrêmes en Irlande.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas une extrême droite, par exemple.
Et les conservateurs, il y a des conservateurs.
Oui, mais en fait, les deux parties les plus puissantes en Irlande, ce sont les deux centre-droits. Du coup, ils ne sont même D'accord. pas trop extrêmes. On n'a pas une extrême droite en Irlande.
Mais... Donc, il n'y a que deux parties
Non, il y a des autres parties, mais on n'a même pas une gauche très forte. Bah, on a une gauche, mais c'est très lié à notre histoire, en fait. Et ça n'a rien à voir avec les politiques en Europe en général. Mais pour nous, l'énergie dans la politique, c'est maintenant dans les référendums en Irlande. C'est là où vraiment on sent un change, on sent vraiment une vague. Voilà. C'est à travers le peuple, en fait, à travers les référendums. Mais bon,
il y a eu un référendum récemment sur l'avortement.
Oui,
tu étais parti pour...
pour voter.
C'est ça,
oui.
T'as pris ton week-end pour partir en Irlande et voter. Oui,
c'est ça. Il faut regarder, il y a un hashtag Home to Vote. Tous les Irlandais qui ont pris l'avion, qui ont pris les bateaux pour revenir en Irlande pour voter. Ouais, non, c'était vraiment...
Donc c'était un succès. Et donc c'est oui à l'avortement, alors.
Ah oui, c'est une landslide, c'était incroyable, c'était vraiment...
Enfin, c'était combien l'influence aux urnes, finalement, pour ça?
Alors, t'as je crois que enfin, c'était 67% des personnes qui ont dit oui pour avoir le droit à l'avorter en Irlande. Mais c'est assez conservateur à la fin, ce qu'on va avoir. Ça ne va pas être très libéral non plus, mais...
Tu veux dire que ce serait un avortement, mais mesuré quand même?
Mesuré. Ah non, non. Ouais, ça veut dire que ça va être plus ou moins le même qu'on a dans plusieurs pays en Europe, jusqu'à 12 semaines. Voilà. Mais avant, on n'avait rien du tout. On n'avait même c'est pas ça. Le droit de... Non. C'était vraiment très compliqué. Mais bon, mais avant, on avait le mariage pour tous. On avait le...
Ouais, et ça aussi, ça a été voté par référendum?
Par référendum.
D'accord, très bien.
Ouais, voilà.
Et donc, c'était pareil, oui pour le mariage pour tous.
Il faut un autre jour que je vous explique notre constitution et pourquoi on doit avoir des référendums pour changer des choses.
C'est vrai, vous avez autant de faire. Ouais, vous avez des référendums comme ça dans vos pays aussi ou pas ces derniers temps? Parce qu'en France, on en a
Il y en a eu un pour sortir de l'Europe.
Oui.
Bon, le résultat, en tout cas on en fait.
C'était une belle réussite. D'accord, ok.
On a voté pour les Grecs, on sortait pour sortir de l'Europe.
Mais finalement ça n'a pas été respecté, c'est ça?
Ils n'ont pas le choix. Le traité a été changé entre temps, donc le vote était plus...
C'était plus valable.
Donc on vote aussi de temps en temps.
Donc ils ont réussi.
C'est comme en Irlande, il faut se déplacer, on ne peut pas voter de l'étranger, contrairement à la France. Je pense que c'est passé des pays où il y a une forte population qui habite en fait
grosse
à l'étranger.
Diaspora, quoi.
Voilà, une grosse diaspora, et du coup... J'avoue que moi, je ne me déplace pas en Grèce.
Ouais.
Donc, ça fait un moment. J'ai jamais voté en Grèce, en fait. De ce
fait.
Oh là
là.
Aïe, aïe, aïe.
D'accord. Donc, et en Hollande, il n'y a pas forcément de référendum?
Ouais, bah, si, on fait des petits référendums, mais voilà, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, hormis des partis, disons, extrêmes, il y a des partis, disons, d'un seul sujet. C'est-à-dire, on a un parti pour les animaux, on a un parti pour les retraités. On a un parti pour les hautement éduqués racistes. Enfin, y a plein.
Attends, c'est hyper discriminant, ça. C'est-à-dire que chaque parti défend sa petite cause.
C'est ça.
D'accord, très bien.
C'est ça. Et chacun pense que, voilà, que son programme, c'est le meilleur. Et ça, je crois que, voilà, en France, je crois que la dernière élection, on a eu une petite partie pour les animaux également. Mais chez nous, ils sont vraiment à l'Assemblée. Et aussi, voilà, un parti pour les retraités. Il y a deux sièges pour les gens qui veulent dire « oui, on veut plus de retraite ».
C'est chouette, hein.
Oui, c'est mignon. Mais au final, il faut dire, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose, quoi.
Ah là là. En tout cas, on va conclure ce petit moment politique en écoutant la chanson « Bella Ciao », mais pas l'interprétation de la série « Casa del Papel », parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu fâché. On a choisi, enfin, tu as choisi l'interprétation de... Tu as choisi, Carla, l'interprétation de « Bella Ciao » de Yves Montand.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai là sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai là sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao.
Chanson qui a connu un succès particulier dans ce studio. Rendons-nous en Grèce désormais avec René. René qui souhaitait aborder le sujet des drogues dans son pays. Qu'est-ce que c'est?
Mais tout à fait. Mais bon, comme je suis bonne élève, j'ai commencé par regarder les études qui ont été faites sur ce sujet. Mmh. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Je vous laisse deviner où il est situé.
Ce serait un peu trop cliché si je dis Amsterdam. Non, c'est pas ça.
Non, raté. Bon, en fait, désolé, c'est à Lisbonne.
D'accord.
Mais donc, ce que fait cet observatoire, à part voilà, profiter du climat portugais, c'est de sortir notamment un rapport annuel qui est sorti là récemment, début juin. Donc, mm-hmm. Sans surprise, le cannabis demeure... Parce que voilà, on va parler de cannabis.
D'accord.
Demeure okay. La drogue illicite la plus consommée en Europe. Et j'ai voulu profiter donc, de la sortie de cette étude pour me pencher un peu plus sur les chiffres en Grèce, où en fait, j'avais l'impression que c'était une drogue qui était plutôt pas mal consommée, même si elle est très pénalisée.
Mais un peu comme en France, en fait.
Bah, c'est exactement ce que je croyais. Ouais. Mais en fait, première surprise, la consommation de cannabis en Grèce est en fait très marginale.
D'accord.
Et justement, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres.
Allez.
En 2015, 4,5% donc des Grecs âgés de 15 à 35 ans avaient fumé une fois dans l'année. Alors qu'en France, donc qui est champion d'Europe de la catégorie, voilà, Cocorico, le chiffre est de 22%.
Donc, vous les jeunes Grecs, donc les jeunes Grecs ne sont pas particulièrement des gros consommateurs de cannabis si on compare à des gros consommateurs comme les Français.
Et pourtant, ça n'empêche pas une certaine panique, dès que le sujet est abordé.
C'est-à-dire ?
Je m'explique. En mars, une loi autorisant la production et la commercialisation sous monopole d'État de cannabis à usage médical a été présentée devant le Parlement.
Mais non.
Donc pour les non-chimistes et pour les gens, parce que je sens un certain enthousiasme,
comme son nom
l'indique, donc le cannabis à usage médical donc, et à usage médical, donc délivré sur ordonnance dans le cadre d'un traitement en général pour associer d'autres troubles, notamment en tant qu'antidouleur, et souvent, en théorie, il a une teneur plus faible en THC. Mmh. Voilà, bon, ouais.
Je vois
les gens qui...
Je connais bien le sujet,
Ou en fait, c'est juste la substance psychoactive du cannabis.
Donc, d'accord.
En théorie, ça fait moins planer, mais je ne peux pas tester parce qu'il faut une ordonnance. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très encadré. Mm-hmm. Et ça n'a pas empêché donc, un député de Nea Dimokratia, qui est donc le parti conservateur grec, de déclarer, ni une ni deux, que le gouvernement voulait transformer la Grèce en « ena teliotobafo ». Un spliff interminable. Moi,
ça.
Je m'en lasse pas. Je pense qu'on devrait entendre cette phrase plus souvent. Je vous la laisse en cadeau comme ça.
Mais même le spliff interminable, la loi est passée quand même, quoi.
Oui, la loi est passée parce qu'en fait, ce qu'on attend avant tout, c'est un résultat. Vous savez pas.
Bah
économique.
Ah bah si, on aurait dû savoir. C'est...
Ah oui, tout tourne autour de l'économie et en fait, surtout grâce à son climat et grâce à sa géographie, la Grèce peut être un gros producteur de tabac, qui est une industrie un peu similaire.
D'accord.
Et qui était son premier produit d'exportation au début du 20e, en fait. Donc là, on est au début du 21e. Peut-être qu'il voudrait prendre le lead sur ce nouveau tabac, ce nouveau produit d'export.
Ce nouveau business, en tout cas.
Voilà, ce nouveau business. C'est le gouvernement que le gouvernement rendrait légal.
D'accord,
c'est pas le cas pour l'instant. Et c'est pas le cas en Europe, on le verra. Le gouvernement tablait sur 1,5 milliard d'investissements. Donc bon, c'est des estimations. Donc à ce stade, c'est impossible de dire... si c'est de la fumette ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que des entreprises américaines ont déjà fait savoir qu'elles étaient fortement intéressées.
Mais alors, en fait, en Grèce, le cannabis, c'est circulé, il n'y a rien à voir, ou alors on s'y met à fond, quoi. C'est quoi le...
Alors, c'est un peu entre les deux. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que la Grèce a quand même une histoire en lien avec le cannabis. C'est pas juste une girouette, on a vu l'opportunité, même s'il y a un peu de ça quand même.
Oui, j'ai eu l'impression. De ce que tu nous expliques, j'ai l'impression que c'est plus une opportunité économique.
Mais dans les années 1920-1930, en fait, il y a eu une vague de population grécophone d'Asie mineure qui avait emmené la consommation de ce qu'on appelait à l'époque le hashish.
Le hashish, très bien prononcé.
Avec tout un courant de musique. Donc là, on a passé nos choix musicaux, mais voilà, tout un courant musical qui s'appelle le Rebetko, qui fait pas mal de chansons qui parlent donc vraiment de l'addiction à la mastura. Et en fait, tous les lieux de consommation étaient fermés en 1936, au moment de l'arrivée au pouvoir du dictateur Metaxas. Et en fait, on peut dire que la Grèce vit sous ce régime d'interdiction depuis, en fait. Après, ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même une consommation et qu'il y ait eu donc, en mai dernier une grande manifestation devant le Parlement donc, pour la légalisation, cette fois-ci, de cannabis à usage récréatif.
Alors, malgré l'histoire, un Parlement qui n'est pas ouvert au débat.
Non, et il est vraiment très loin d'être le seul, parce qu'en fait, en Europe, la question de la légalisation de l'usage récréatif n'est pas du tout en débat.
Tu veux dire en Europe, pas que en Grèce, là, c'est ça ?
Exactement.
Ok, d'accord.
Parce qu'en fait, pour rebouclé donc sur le fameux rapport de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Voilà, c'est long à dire, donc à chaque fois je le dis d'une voix un peu suave parce que sinon j'oublie la moitié. Donc sur lequel j'ai ouvert la chronique, le mot légalisation, si vous faites un petit command find,
ouais.
Il est mentionné une fois,
oh.
Et c'est pour parler des États-Unis.
Ah oui, d'accord. En tout cas, en France, on n'est pas prêt de parler de légalisation du cannabis. Et moi, pour revenir sur la dimension politique, puisqu'il s'agissait de ça, je voulais savoir si c'était un sujet qui était abordé dans vos pays. Alors là, j'ai en face de moi Willem. Willem, comment ça se passe avec le cannabis en Hollande? C'est un sujet? C'est pas un sujet?
C'est plus de sujet.
D'accord.
Je pense.
T'entends pas bien, oui.
Ouais,
c'est plus un sujet?
Non, je pense que c'est...
Donc, je peux rebondir parce qu'apparemment il y a un petit problème technique.
Ouais.
Ça y est, on peut t'entendre. Mieux. Vas-y, allez.
Non, ça va mieux là. Je pense que c'est plus un sujet. Voilà, c'est plus ou moins autorisé. Ça a été un petit peu un sujet parce qu'on avait énormément de gens de l'ex. Des étrangers, disons.
Des Italiens.
Des Italiens, des Français, des Grecs, des Irlandais. Ils venaient de partout.
Des Européens.
Voilà.
Voilà.
Pour juste un week-end à Amsterdam, à passer 48 heures dans un bar coffee shop, quoi. Mm-hmm. Et on voulait, les hommes politiques disaient au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter à subventionner l'Europe de notre politique, disons, libérale. Avec ça. Ça a été un petit peu un sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Européen qui vient à Amsterdam qui souffre de ça.
Mais comment ça se passe en famille? C'est un sujet auquel on parle comme si c'était de l'alcool ou c'est un sujet tabou? Je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays respectifs, si c'est un sujet tabou auquel on peut parler avec, par exemple, son oncle, son grand-père ou son fils. Non, je ne sais pas, je pose vraiment la question.
C'est voir les papis de Willem, qu'est-ce qu'ils pensent.
Ouais, mais les papis, ça fait longtemps déjà.
Mais tu vois, par exemple, pour le vin, pour revenir avec un exemple parallèle, moi je sais que quand j'avais 13 ans, 12 ans, on m'a fait goûter un verre de vin rouge pour me faire découvrir ce que c'était.
Ouais, mais ça, c'est quelque chose de culture en France.
D'accord.
Le vin, ça va vraiment très, très long. Le cannabis, c'est quand même quelque chose de très récent, non?
Oui, c'est sûr.
Donc
pour l'instant...
Je pense que là, il y a des petites générations de bobos où ça parle bien entre générations. Mais voilà, moi, je n'ai jamais vécu ça encore.
D'accord. Et vous, dans vos familles ou dans la famille, des familles de vos amis, c'est quelque chose que vous pouvez parler? Par exemple, quand on en a beaucoup parlé dans les médias, notamment aux États-Unis, la légalisation en Californie ou en Uruguay. On a commencé à en parler. Est-ce que c'est des sujets qui s'abordent ou c'est des sujets qui ne s'abordent pas à Noël? Dites-moi.
Non, mais... Il y a des regards gênés autour de la table. Hein, je veux pas balancer.
Je pense que moi, Chinade, on vient des pays très catholiques, donc on garde bien le sens de culpabilité sur ça. Tu peux le faire, mais tu peux pas en parler.
Donc c'est lié à la religion, c'est ça?
Je sais pas. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est de moins de point de vue comment on vit le catholicisme, même si t'es pas catholique, mais ça fait partie de la culture. Et que du coup, même le vin, toi, mais jamais tu verras quelqu'un qui fait goûter un verre de vin à un enfant, quoi. Tu vois, c'est quelque chose. Tu te bourres pas la gueule avec tes parents.
Je pense que justement, c'est beaucoup plus catholique de se bourrer la gueule que protestant.
Non, pas du tout. Pas du tout. Tu le fais, mais tu le fais en cachette. C'est pour ça. C'est là le truc catholique, c'est que t'as une espèce de culpabilité. Donc,
ouais, c'est ça.
Voilà,
ouais,
tu vois. Tu vois, allez, elle est d'accord.
Ouais, je suis d'accord. Bah, on est vraiment côté religion, ça a beaucoup changé, mais côté culture, on s'occupe de l'Église, on est poli avec la famille, on peut en parler en abstrait. Mais si c'est des détails concrets, non, on ne parle pas à Noël autour de table, non, je crois pas.
D'accord, ok, parce que moi je pourrais faire des blagues sur le cannabis et ça passerait. Donc c'est pour ça que je vous demandais, peut-être que c'est ma famille qui a un problème. En tout cas.
Ou au contraire,
oui, bravo. Ouais. Écoutez, on va terminer sur ça, puisque notre émission L'Europe en fait se termine ainsi. Merci à chacun d'avoir participé. Merci à Grande Contrôle et à son équipe de nous avoir accueillis. Merci à vous tous. On vous applaudit. Un petit applaudissement. Et merci à Mafé aussi qui est là depuis le début. On se retrouve rapidement, j'espère. Et on se dit au revoir dans toutes les langues. Alors, Sinead, ça donne quoi?
Slan.
Willem.
Totsiens.
Jasper, bien.
Ciao, balle.
Au revoir à tous. Salut.
Grande Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.